Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asley, bonjour chers auditeurs.
Ravi de vous retrouver Daniel dans le cadre de nos conversations et ravi de vous retrouver d'ailleurs vous en direct d'Israël. Alors Daniel, la dernière fois lors de notre conversation précédente, vous nous avez brossé un tableau des relations d'Israël avec le reste du monde, hein, à savoir la Chine, la Russie, les États-Unis, entre autres. Alors il se trouve que Israël a des relations plutôt stables avec toutes ses autres grandes puissances, et vous nous avez rappelé que les problèmes israéliens, c'était surtout des problèmes internes, hein, notamment avec la réforme judiciaire ou bien la recrudescence des actes terroristes en Israël. Tout ça fait que on ne peut pas non plus se permettre de dire que tout va pour le mieux pour Israël. Mais alors, Daniel, est-ce qu'aujourd'hui on peut aller un petit peu plus loin avec vous dans cette analyse de la situation d'Israël en termes de géopolitique mondiale?
Oui, c'est nécessaire parce que pour Israël, la stabilité n'est jamais pour toujours. Et donc, le maître mot ici, c'est vigilance. Et on observe évidemment les développements, tout ce qui peut changer. On sait qu'on reste jamais très très longtemps ici en Israël dans un statu quo. Il y a toujours des choses qui bougent. Alors, j'ai eu la chance de participer à un séminaire très intéressant organisé par une organisation que vous connaissez, que dont vous parlez, je pense, de temps en temps, qui s'appelle Elnet. Alors, Elnet, c'est européen. Leur principale activité, c'est d'emmener des influenceurs. Alors, évidemment, les élus ou des journalistes ou des intellectuels, les emmener en Israël simplement pour qu'ils voient par eux-mêmes quel est ce pays qu'ils critiquent sans connaître. Et puis, il y a une deuxième activité, c'est celle-là dont je vais parler, qui s'appelle le dialogue stratégique. Israël entretient un dialogue stratégique grâce à Elnet avec chacun de ces pays d'Europe. Et ce dialogue stratégique, c'est un dialogue qui se fait au niveau des ministères de la Défense et des renseignements. Puis un homme qui coiffe tout ça et qui est un Israélien très connu, c'était lui notre invité. Je vais partager avec nos auditeurs des choses très importantes qu'il a dites. Cet homme s'appelle Amos Yadlin. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Amos Yadlin? Il dit la première menace, c'est l'Iran, évidemment. L'Iran, finalement, elle a la bombe ou elle peut l'avoir. Plus personne vraiment pourrait l'empêcher, même en bombardant les installations, elles sont très profondément enfouies. L'Iran est sanctionné par les États-Unis, donc elle est en grande difficulté économique, mais elle a trouvé une parade qui est de se rapprocher de la Chine en lui livrant du pétrole, de la Russie en lui livrant des drones. Donc elle a fait coup double, elle a à la fois des débouchés commerciaux et elle a peut s'illusionner à avoir une forme de protection de la Chine, de la Russie. Je ne le crois pas trop, personne ne le croit trop, mais enfin, elle est dans une forme de coopération avec ces deux pays. Donc, au fond, l'Iran est dans une position suffisante pour ne pas avoir besoin de la levée des sanctions américaines et peut faire l'impasse dessus, le reste étant plus important. Et elle continue donc à proclamer la volonté de détruire Israël. De temps en temps, elle donne des dates. On le fera avant 2040. Bon, cette agitation, évidemment, laisse les Israéliens de marbre. Mais quand on fait l'analyse de ce que peut faire Israël par rapport à ce danger, là, ça devient plus compliqué parce que on voit, et ça a été malheureusement confirmé, les Américains mettre le Moyen-Orient en troisième priorité après la guerre en Ukraine et après la Chine, ou après la Chine et la guerre en Ukraine. Donc on a l'impression que les Américains, enfin on a la certitude que les Américains ne sont pas décidés à s'engager dans un conflit avec l'Iran, ça c'est sûr, et donc ça limite les possibilités d'action israélienne. Elle peut rien faire de très grave, de très sérieux sans l'appui américain. Donc, elle est dans le cadre de la réflexion, de la prévention, sans trop savoir évidemment ce qu'on met derrière le mot prévention. Par contre, et ça c'est le deuxième point, l'Iran actionne ses proxies, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ses obligés, qui sont les différentes factions palestiniennes. Et donc cette recrudescence du terrorisme, et elle est en fait d'origine iranienne. Et ce que Amos soulignait, et ça c'est très intéressant, c'est que depuis très longtemps, Israël n'avait pas fait face à des menaces sur plusieurs fronts à la fois. Ça vient du nord avec le Hezbollah, ça vient de Judée-Samarie, ça vient de Gaza, ça vient un peu de l'intérieur d'Israël. Donc vous avez ce qu'on appelle une menace multifront. Alors est-ce qu'il faut prendre ça très au sérieux? Sérieux, oui, parce que ça révèle un potentiel de nuisance de l'Iran, qui est formidable, mais pour l'instant, les ripostes israéliennes sont tellement rapides, sont tellement ciblées et efficaces, et sont tellement sérieuses, sévères, qu'on voit que les Palestiniens font très attention à ce qu'ils font. La troisième menace, c'est sur les accords d'Abraham. Et là, il est revenu un petit peu là-dessus, parce que les accords d'Abraham, c'est quand même une opportunité majeure pour Israël d'avoir un avenir régional, d'être ancré dans sa région. Mais on sait tous que les accords d'Abraham, tels qu'ils sont aujourd'hui, sont fragiles. Tant que l'Arabie saoudite, d'une manière ou d'une autre, n'aura pas rejoint le camp des accords d'Abraham, il ne se passera rien. Donc la clé, c'est l'Arabie saoudite. Alors là, l'analyse, elle est compliquée. Il y a eu cet accord organisé par les Chinois, où l'Iran et l'Arabie saoudite reprennent le dialogue, rétablissent des relations diplomatiques. Et j'ai rencontré d'anciens généraux israéliens qui disent que c'est une catastrophe pour Israël. Amos ne le pense pas, je suis plutôt d'accord avec Amos. Il dit, bon, c'est pas la paix, hein, c'est la paix au Yémen. Et donc le fait que l'Arabie saoudite soit moins engagée au Yémen permet à l'Arabie saoudite de s'occuper davantage de développement économique, d'où l'intérêt d'Israël, parce que pour le développement économique, ils ont besoin des voisins. Il dit aussi que c'est un épisode, ce rapprochement avec l'Iran, parce que l'Arabie saoudite et l'Iran sont les deux leaders des deux camps opposés de l'islam, le chiisme et le sunnisme, et ça fait 1000 ans que ça dure, et ça va pas disparaître du jour au lendemain. On en est là, et surtout, ce que dit Yavuz Ladin, et ça c'est très important à partager avec nos auditeurs, c'est qu'en fait la relation entre Israël et l'Arabie saoudite n'existait pas en tant que telle. C'est une relation en réalité qui est triangulaire parce que les Américains font partie du dialogue. Lorsque les États arabes unis ont signé les accords d'Abraham, ils ont obtenu des compensations des Américains. Et donc les Saoudiens sont en négociation avec les Américains en disant si on signe avec Israël quelque chose qui ressemble à des accords d'Abraham, qu'est-ce que vous nous donnez en échange? Alors qu'est-ce qu'ils veulent les Saoudiens? C'est énorme, c'est énorme. Ils veulent une garantie de sécurité. Une garantie de sécurité, ils appellent ça, c'est très drôle, l'article 5. C'est un rappel de l'article 5 de l'OTAN. L'article 5 de l'OTAN dit, si un pays qui fait partie de l'OTAN est attaqué, c'est comme si tous les autres pays étaient attaqués, et donc la riposte est automatique. Ils voudraient aussi, alors là c'est encore plus élevé, ils voudraient que les Américains leur livrent de la technologie du nucléaire civil. Or, on sait toujours que ça commence par le civil et ça se termine par le militaire. Donc, évidemment, pour l'instant, on est en stand-by. Ils veulent aussi des armes sophistiquées, les mêmes que celles que les Américains livrent à Israël, et Israël n'est pas contre. Pas contre, parce qu'ils les connaissent, ces armes, et ils savent comment s'en protéger. Donc, et les Saoudiens veulent aussi quelque chose qui est très intéressant pour Israël. Ils disent, nous, on s'est rapproché des Chinois, et vous ne pourrez pas nous empêcher de continuer à le faire. Ça, c'est quelque chose qu'Israël aimerait bien aussi avoir des Américains. Donc, vous voyez, cet ensemble de demande des Saoudiens vis-à-vis des Américains fait que, et ça c'est la conclusion d'Amos Yadlin, un accord saoudien avec Israël n'est pas pour demain. D'abord parce que les Américains ne sont pas prêts à donner tout ça, donc il faut au fond attendre un nouveau président américain. On a aussi, il faut attendre aussi un nouveau gouvernement israélien parce que le roi Salman et son fils Mohamed Ben Salman a pas du tout envie de parler avec Bibi, qui a aujourd'hui une mauvaise image dans les pays arabes. Et puis il faut attendre aussi la mort du papa de Salman et que MBS, Mohamed Ben Salman, prenne sa place. Donc tout ça va prendre encore quelques années. C'est plutôt l'Arabie saoudite qui a la balle dans ses mains. Donc, si vous voulez, la conclusion de Yadlin, qui est quelqu'un qui a l'habitude d'être plutôt pessimiste, en tout cas pas trop guilleret, pas trop optimiste, c'était de dire qu'on est dans une période qui est un peu une période de pause, d'attente. Ça va pas durer, mais qui fait qu'aujourd'hui, bon, ben, on peut s'occuper des problèmes intérieurs. Et là aussi, on fait des progrès. Bibi, qui a rencontré en tête-à-tête Kevin McCarthy, lui a assuré qu'on trouvera une solution de compromis sur la Cour suprême. Donc si c'était le cas, évidemment, on repartirait d'un pas nouveau en Israël avec une position qui est au fond plutôt bonne par rapport au reste du monde. Israël souffre évidemment de la crise économique mondiale, mais elle s'en sort plutôt bien et plutôt mieux qu'ailleurs.
Merci beaucoup, Daniel Haber, pour tous ces éclairages. Comme d'habitude, on vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.